Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
À toutes et à tous. J'ai plaisir à vous retrouver afin de poursuivre le très long cheminement d'Alexandra David-Nel, cette voyageuse dans l'âme qui, durant 14 années, a parcouru l'Asie. Grâce à ses livres, mais aussi à son abondante correspondance, on peut la suivre dans ses pérégrinations, ses aventures, ses moments difficiles aussi, son manque d'argent, mais aussi sa ténacité pour aller au bout de son projet. Alors avant de reprendre le fil de ce très grand voyage d'Alexandra que nous suivons ensemble chaque semaine, je veux d'abord vous souhaiter une année douce et heureuse pour chacun et pour tous. Et ensuite, avant cette nouvelle séquence, je veux vous donner un très court résumé des pays déjà traversés. Partie donc en août 1911 de Tunis pour l'Inde, elle arrive à Ceylan, puis s'installe à Calcutta. Elle se rend plusieurs fois au Sikkim. Elle franchit pour la première fois la frontière au Tibet en 1914. C'est également cette année-là que le jeune Afour Yongden rentre à son service et ne la quittera plus. Puis, durant les deux années suivantes, nous l'avons trouvée dans son ermitage à 4000 mètres d'altitude. Et c'est alors qu'elle en profite pour franchir à nouveau la frontière avec le Tibet. Mais, arrivée sans autorisation, elle en est expulsée. Elle retourne donc à l'ermitage, qu'elle doit également quitter car elle est aussi expulsée d'une Sikkim, trop près de la frontière tibétaine. Elle se rend donc au Japon en 1917, puis en Corée, avant de rejoindre Pékin. Nous avions donc laissé Alexandra à Pékin en automne 1917. Elle y passe aussi l'hiver, et maintenant nous sommes en janvier 1918. Il y gèle terriblement, mais le soleil brille tous les jours, écrit-elle, ce qui la change agréablement du Japon brumeux, et elle cite ce vers de Dhammapada. Après avoir savouré le breuvage de l'isolement et celui de la quiétude, on ne craint plus rien. Elle écrit tout à fait de circonstance ce vers de Dhammapada. Le breuvage de la quiétude coule-t-il à flots abondants? Je veux me garder d'une affirmation présomptueuse. Nous voici au plus creux, ou presque, de l'hiver. Des tempêtes parcourent Pékin, apportant des nuages de sable ramassés dans le Gobi. C'est le simoun, on se croirait dans le Sahara, et je songe à Nesta, la palmeraie du sang, et aux dattes de Djéride, dont je croquerais volontiers quelques-unes si j'en avais à ma portée. Maintenant, la température oscille entre eux, 15 et 22 degrés en dessous de zéro. J'ai dû procéder à des arrangements d'hivernage. On a collé à neuf du papier sur toutes les parois extérieures servant de mur. Ma maison est une boîte, une sorte de serre avec du papier en guise de verre à vitre. La seule différence avec une serre est que j'ai un toit en tuiles et au-dessous de celui-ci, un plafond en papier. Les chambres ont 5 mètres de hauteur et la pièce principale 15 mètres de long. J'ai abandonné cette dernière et vis dans une pièce moyenne contiguë où j'ai monté une de mes tentes, ce qui constitue une sorte d'alcôve dans laquelle j'ai installé mon futon, c'est-à-dire le matelas japonais, sur des tabourets chinois pour former un lit. J'ai aussi arrangé une tente d'estrade couverte de mes carpettes tibétaines pour m'y accroupir à l'orientale et lire, écrire et même manger. J'évite ainsi d'avoir les pieds sur les pierres, car toutes les chambres sont carrelées et par le froid qu'il fait, il est très pénible d'être en contact avec ces pierres glacées. J'ai des engelures, des crevasses, toute la lyre. Toutefois, je ne suis pas malade comme au Japon. Je t'ai envoyé une coupure de journal un article que j'ai écrit ici. J'envoie une autre à cette lettre. Tu me diras si mon style n'a pas baissé à force de ne plus pratiquer notre langue. Ici, j'ai reçu force de compliments à ce sujet. Mais les compliments, on sait ce que cela vaut. Elle est toujours à Pékin et elle écrit le 17 janvier 1918. J'ai appris hier qu'une sérieuse épidémie de peste s'était déclarée au Shandi, au nord-est de la Chine, une des provinces que je dois traverser. Les pestiférés ont voulu massacrer les médecins européens qui leur ont été envoyés, et les soldats ont fait cause commune avec les infectés. Cela a failli être grave. C'est aussi en janvier 1918 qu'elle apprend, par une lettre de Philippe Nel, que la mort de sa mère est survenue il y a une année. Cette nouvelle, arrivant à la veille de mon départ pour le Coucou Nord, m'a fortement émue. Oui, tu dis bien, je suis toute seule maintenant. Il ne me reste que toi, mon grand ami. Cela, c'est la vie, n'est-ce pas? L'impermanence de tout, loi universelle. Je pars le 23 janvier au matin, dans un train bourré de désinfectants. On va nous faire porter des masques antiseptiques et il y aura des médecins en service dans les voitures. Ça nous rappelle quelque chose quand même aujourd'hui. Je continue. La peste pulmonaire a fait 5000 victimes en quelques jours dans une seule ville. Après tout, mon voyage m'éloigne de la région infectée, mais auparavant, il faut en traverser un bout. Bon, j'ai déjà vu ça à Bénarès et sans tant de précautions. Peut-être même trop de précautions engendrant la peur sont-elles dangereuses. Il n'empêche que le chancelier m'a presque imposé d'aller voir le médecin de l'hôpital français demain matin pour recevoir ses conseils, des médicaments et des masques. Ta lettre me dit que tu as envoyé de l'argent à Tientien. Ah, je n'ai été avisée de rien, mais je vais y faire téléphoner demain matin dans le cas où la Banque de l'Indochine aurait reçu des fonds. Elle me le transmettra à son agence de Pékin. Je suis désolée de t'avoir télégraphié pour demander de l'argent, mais en partant loin, ma situation était critique. J'espère bien que c'est fini. En ce qui concerne mes affaires à Bruxelles, rien à faire pour l'instant. La guerre terminée, je ferai établir une procuration et tu iras à Bruxelles régler le tout au mieux en attendant mon retour. Et Alexandra fait donc ses recommandations financières à Philippe. Maintenant que ma mère est morte, le montant de mon avoir en Belgique s'est accru. En dehors des legs suivants, que je confie à ton honneur, le reste est entièrement pour toi. Je désire que 3000 roupies soient données à Fourionden, mon serviteur. Au taux ordinaire du change, qui reviendra après la guerre, cela fait un peu moins de 5500 francs. Je désire aussi que 2000 francs soient donnés au Feldlama Kunzan Richard Gomstein à l'accès au Sikkim. Il faudra s'assurer avant si le lama est encore vivant. Ceci est une dette sacrée, car j'ai reçu cet argent en dépôt du Maharaja de Népal à l'intention de ce lama. Le lama du Coucou Nord fait savoir à Alexandra que le départ de Pékin est prévu pour le surlendemain. Le 24 janvier 1918, le grand lama, Alexandra et Yongden quittent donc Pékin en chemin de fer pour le monastère de Kumbum, qui se trouve à 2500 km à l'ouest de Pékin. Un très long voyage qui durera 6 mois, mais la route est longue et des aventures l'attendent. Comme par exemple, la guerre civile qui fait son apparition à Chambly, juste au moment où il allait traverser la province. Et là, je cite sa lettre. Nous avons été arrêtés net à la limite du Honan. Dans un misérable hameau, nous sommes logés plus mal que des chiens, dans une sorte de grange divisée en compartiments. Les lamas, son fils et trois des gens de sa suite sont entassés dans l'un des réduits. J'ai obtenu la jouissance de la plus grande des divisions, environ 7 mètres sur 2,70 m. Afour m'a arrangé une sorte d'alcôve avec des toiles dans l'un des bouts. Le milieu sert de cuisine et le garçon dort à l'autre extrémité. Cette masure est bâtie en boue et paille hachée, une sorte de porphyre rustre et le sol est en terre battue. Dans la cour, nos chariots, il y en a 6, chargés de caisses, ont l'air d'épargne. Les mules, il y en a 15, errent autour, salissant tout l'enclos de crottats qu'on ne balaye qu'une fois par jour. Bref, cette hôtellerie primitive commence à me peser après 20 jours de séjour. J'ai par acquis de conscience, et parce que c'est la coutume en Chine, confectionné un drapeau français avec 3 morceaux de coton. Si je dois me trouver dans la mêlée, je hisserai ce pavillon et laisserai les événements suivre leur cours. Nous avons 8 fusils de guerre et une assez large quantité de munitions avec nous. Mais cela ne pourrait évidemment servir que contre quelques maraudeurs isolés. À notre première étape, l'un des barbares, après avoir secoué autant qu'il peut la poussière qui le couvre, s'approche de moi et interroge. « Votre révérence, c'est le titre qu'il me donne, a-t-elle vu les têtes coupées pendues à un arbre près de la route ?» Ma révérence n'a rien vu, mais elle ne devait pas attendre longtemps pour cela. Hier, à Four, à mon réveil, m'annonce « Femme de Seigneur », il a conservé l'appellation hindoue, « il y a 3 têtes coupées pendues en face de la porte. » Habillée, je vais voir. Il y a là en effet 3 têtes accrochées au mur par les cheveux. L'histoire est celle-ci. À environ 5 miles d'ici, une bande armée a attaqué plusieurs villages, rasiant tout et tuant plusieurs paysans. Quelqu'un a pu s'échapper et courir prévenir les soldats séjournant dans le hameau où je suis. Ceux-ci sont montés à cheval, ont rejoint les pillards qui se sont défendus. 4 d'entre eux ont été pris et un soldat blessé, dont justice sommaire, 3 têtes au mur. Le propriétaire de la 4e a été gardé pour interrogatoire. Cela signifie torture, quoique celle-ci soit officiellement abolie. Demain matin, il sera décapité à son tour. Puis les jours se suivent et se ressemblent tous, aussi monotones les uns que les autres dans mon étable. Elle écrit le 2 avril 1918. Nous avons essuyé une nouvelle attaque l'autre nuit, vers minuit. Nous vivons dans une atmosphère moyenâgeuse bien curieuse, et je songe à tous ces vieux tableaux représentant des batailles, des tableaux que j'ai vus au musée de Bruxelles. Nos assiégeants ont une compagnie de porteurs d'échelles, qui dressent leurs appareils contre les murs et les soldats grimpent à l'escalade tandis que d'en haut on leur tire dessus et on précipite aussi des pierres accumulées d'avance sur les remparts. Ce n'est pas la guerre moderne. Tout y a été pillé et rasé par les insurgés. On annonçait hier que la discorde s'était mise parmi eux. Ils s'étaient tant soit peu entrefusillés et finalement s'étaient séparés en 2 bandes, l'une d'elles devant opérer sa jonction dans le nord de la province avec les groupes dénommés ceux à peau épaisse, des bandits qui s'exercent nus, s'entrelaçant des briques pour se tanner le cuir. Ils n'ont pas d'armes à feu, mais seulement de longs sabres. Croirait-on vivre au XXe siècle? Ce voyage qui se poursuit est chose fatigante. Il est impossible de prévoir ce qui va arriver. Ici, nous ne savons plus rien si ce n'est la dévastation des villages environnants, rançonnés, pillés, incendiés. On est si affreusement stupide quand on ne comprend pas la langue du pays. Bon, mais tout ça s'arrangera. En effet, après de nombreux pourparlers, j'obtiens 3 petites voitures attelées chacune de 2 mules. le gouvernement militaire donna, à très à contre-cœur, l'autorisation nécessaire pour mon départ. Et, bien que tout fût convenu la veille, discuta encore environ 2 heures, tandis que j'attendais devant l'une des portes de la ville. Enfin, un fonctionnaire en robe de soie bleue parut, me salua, sourit de l'air de quelqu'un qui dit à la grâce de Dieu. Il devait penser l'équivalent confucianiste de cette formule, et escorté de soldats, fit débarricader les grosses portes des enceintes successives. À la dernière, il salua et sourit encore, et tandis que l'on refermait les portes, nous avançons vers la campagne. Celle-ci est déserte, vide de tout. Pas un paysan dans les champs, pas un voyageur sur la route. Tout a fui ou s'est erré dans la crainte d'un raid subi des insurgés qui se conduisent en vrais bricoles. Mes charretiers sont, je le crois, pas mal impressionnés. Ils fouettent leurs murs, qui courent aussi vite qu'elles peuvent. Les discussions au départ, l'attente à la porte de la ville, nous ont monté presque à midi. La route est longue, et nous devons, pour nous trouver à peu près en sûreté, avoir traversé 2 rivières. Le temps tourne à la tempête, il pleut, les nuages bas et livides font un décor tragique à notre fuite pittoresque entre les champs parsemés de nombreux tombeaux. Bref, nous atteignons la seconde rivière à la nuit tombante. Il faut la traverser sur un grand radeau, construit de façon primitive et manœuvré à bras. Le courant est très rapide, le vent agite terriblement les voitures placées côte à côte sur cet esquif antédiluvien. Nous mettons une forte demi-heure à gagner l'autre rive. Et, lorsque l'on a de nouveau rattelé les mules, il fait nuit noire. Nous trouvons un gîte dans une petite auberge. Le gîte, c'est toujours dans ce cas simplement 4 murs en terre et un toit de chaume. Nous étendons nos couvertures et nous dormons, Achour et moi, roulés dans nos manteaux de peau de mouton, chacun dans un coin de ce que je n'ose appeler une chambre. Réveil avant le jour et départ dès qu'une lueur d'aube le permet. Il nous faut regagner le temps perdu la veille et effectuer une longue étape. Le 17 mai 1918, Alexandra écrit à Philippe Nel depuis Gansu, une province étroite entre le plateau de Mongolie au nord et les contreforts du plateau tibétain au sud. En fait, elle est sur le tracé de la route de la soie. Voici 9 jours que j'ai quitté Sillon, voyageant tous les jours de 12 à 13 heures dans ma charrette sans ressort, que le cocher mène bon train par des routes qui ne sont que des vastes fondrières. Et le pays est joli, montagneux. Nous avons franchi plusieurs chaînes de montagnes par des cols dont l'altitude varie entre 600 et 800 mètres environ. Les gîtes, dans les villages où nous passons, se font de plus en plus misérables et sordides. On s'y fait, il le faut bien. On mange ce que l'on trouve et l'on trouve peu de choses. Avant mon départ de Sillon, le gouverneur m'a invité à un thé dans sa résidence privée qu'il partage avec un de ses amis membres de son conseil. Les thés reflétaient de façon ultra pittoresque l'incertitude de l'heure actuelle en Chine. En guise de femmes de chambre en tablier et bonnet brodé, tasses et gâteaux était présenté par des soldats. Fin de cartouchière, démesurément garni, le revolver à la ceinture ou le rifle pendu à l'épaule. Il y en avait même qui portaient une arme, sans doute dernier cri, que je ne sais comment dénommer. Plaisanterie à part, nous sommes sur le pied de guerre et les soldats dorment leurs fusils à côté d'eux. Au thé, j'ai retrouvé les auditeurs de mes petites conférences auxquelles s'étaient joints quelques autres messieurs, parmi lesquels le chef de l'état-major. Oh, ne t'imagine pas une réunion de gens costumes chatoyants, des robes de soie multicolores, des uniformes chamarrés. Non, tout cela, c'est de la vieille Chine, morte aujourd'hui. Les Chinois, gens du monde, s'habillent uniformément d'une robe d'un gris éteint et d'une courte veste noire. Tous les autres, militaires compris, étaient des lettrés. Ils récitaient par cœur des passages des classiques, empreints de calme, de scepticisme souriant et indulgent. Nous étions loin de l'Europe et loin de l'Inde, bien réellement en Chine. J'ai savouré là un délicat plaisir, cédé à une minute de sensualité quintessentielle. Ah, que la vie est merveilleuse et diverse. Nous avons beau les conquérir, les duper, les voler, les Asiatiques demeurent dans un monde de beauté et de grandeur dont la porte reste close à l'Occident. Le 26 mai, après 17 jours de marche, Alexandra est toujours au Gansu. Mais à Lanzhou, c'est-à-dire Lanzhou aujourd'hui, la capitale. Nous avons marché grand train sur des pistes qui ne sont que de vastes fondrières, tantôt roulant dans le lit des rivières dont les eaux sont basses à cette époque de l'année, tantôt dévalant parmi des blocs de rochers faisant de l'équilibre sur une seule route. D'autres fois, encore enfoncés dans la boue par-dessus le moyeu. Bref, parcourant un terrain varié, peu monotone. Les ours sont bien un peu mis à l'épreuve par ce genre d'exercice prolongé de 12 à 13 heures par jour. Et ce matin, en prenant mon bain, je me suis trouvée marbrée de bleu, de noir, de vert, indiquant les nions reçus en dépit des coussins et des couvertures dont j'avais capitonné mon véhicule rustique. À part cela, je suis en bonne santé. Alexandra a une lettre d'introduction pour le gouverneur civil et militaire. Elle va donc le rencontrer. Âgé d'environ 60 ans, très grand, très corpulent, extrêmement affable. Il se trouve qu'au lieu d'être confucéiste, comme la plupart des lettrés chinois, il est bouddhiste. Il la reçoit avec sa femme, l'invite à dîner et lui confie des lettres pour les fonctionnaires d'autres régions pour lui faciliter son séjour et ses recherches. Nous sommes en juin 1918. Alexandra continue d'avancer. J'avance, mais il m'a fallu aller en tournée médicale voir des femmes dont les maris sont venus me chercher. Cela, c'est l'Orient. On ne peut pas se dispenser d'y faire de la médecine. Tu me vois d'ici, je ne parle pas chinois. Je crains toujours que les gens n'avalent des drogues pour usage extrême, externe, et ne badigeonnent avec des potions. Et puis, mon principal stock de médicaments est dans la caisse clouée que je ne puis ouvrir en cours de route. Enfin, j'ai été voir les femmes, dont l'une paraît avoir une sorte d'entérine. Que puis-je faire en passant ici quelques heures? J'ai décliné les invitations pressantes qui m'étaient faites d'aller voir d'autres patients alités, mais je n'ai pu refuser d'écouter les hommes qui sont venus me voir. Embarras gastrique, rhumatisme, maux d'yeux et désordre des voies urinaires, presque toujours d'origine syphilitique. Cela tourne presque invariablement dans ce cercle. Et à Four, qui remet les poudres, les pilules, etc., c'est par cœur ce qu'il faut expliquer au sujet de la manière de les prendre. Cela va te faire rire de m'imaginer tâtant les poux, faisant tirer la langue, quand ce n'est pas en inspectant des ventres que leur propriétaire me prie en grâce de regarder. Je continue à bien me porter. Maintenant que nous traversons des régions peu peuplées, je me suis remise à marcher et mange des kilomètres, un pas plutôt accéléré pour me tenir au niveau des charrues. Ma nourriture est pauvre, décidément peu substantielle. En même endroit, nous ne trouvons rien à acheter. On grignote du pain trempé dans du thé, quelques biscuits. Parfois, on se procure quelques œufs. Et le soir, on dort sur un lit de camp en planche ou en terre battue. Oh, je n'aurais pas supporté ce régime quand j'avais 18 ans, mais il paraît me réussir à présent. Je suis brûlée par le soleil, car je voyage en robe chinoise, par conséquent sans chapeau. Je me regarde avec curiosité et me demande combien de temps j'irai ainsi. Mais où sont ces beaux faiseurs de discours sur la fragilité féminine, l'éternelle blessée de ce bon monsieur Michel? Mais quelle vannerie! Comme si la santé est une affaire de sexe. Est-ce que certains n'ont pas prétendu qu'une femme était incapable d'être députée à cause de ses périodes menstruelles? Vois-tu, en dépit des Zola et consorts, je crois que la femme qui n'a pas été mère conserve une robustesse dont la plupart des autres sont privés. La maternité est une fonction naturelle, elle ne devrait logiquement pas entraîner de maladies ou d'accidents, mais l'expérience montre qu'il n'en est pas ainsi et que les grossesses démolissent les femmes, ce que je me félicite de ma sagesse. Enfin, le 12 juillet 1918, elle est à Kumbum, le but. Elle écrit à Philippe Nel, « J'ai envie de dire, ouf, me voici à Kumbum. Combien là-bas, au Japon, j'ai regardé de fois sur la carte ce nom inscrit en tout petit caractère, à peine visible parmi l'ombre des montagnes. Cela semblait si loin de Pékin, et ça l'est en réalité, entre 2500 et 3000 kilomètres. Je me demandais, ignorant l'état des routes, comment j'effectuerais le trajet et quels obstacles apporteraient peut-être à mon projet les gens des pays à traverser. Mais voilà. Une fois de plus, je constate que les difficultés des voyages sont surtout dans les récits des voyageurs et dans les appréhensions précédant le départ. Une fois en route, tout se simplifie. On ne mange pas toujours bien, on ne dort pas toujours bien. Il faut parfois endurer la poussière ou la chaleur ou la pluie ou le froid. Les gîtes manquent de confort, mais rien de tragique là-dedans. Et les kilomètres défilent. On laisse derrière soi des villes, des rivières, des montagnes. Et après tout, on continue à marcher sur la terre et sur ses deux jambes. C'est bien facile. À Kumbum, on m'y a donné une gentille habitation, dépendant d'un des grands temples du monastère, mais complètement isolé. C'est-à-dire que je puisse fermer la porte de mon patio donnant sur la cour d'honneur du temple. Le silence qui règne parmi les temples est un délice, après tant de temps passé parmi le bruit. Il y a à Kumbum, répartis entre les différents temples, une population évaluée à 3800 lamas, mais un silence complet enveloppe tous ces bâtiments étagés sur le flanc de deux montagnes enserrant une étroite vallée. On n'entend que le bruit des longues trompettes tibétaines appelant service religieux et de lointaines harmonies de musique sacrée partant de la demeure du pontife de Kumbum qui est actuellement un gamin de 10 ans. Pour terminer cette arrivée à Kumbum, une petite notation à ce qui se passe en France. 14 juillet, fête nationale, j'y pense en écrivant la date. Triste fête chez nous, l'ennemi dévastant notre pays. Alexandra passera 2 ans et demi dans ce grand monastère de Kumbum. Nous l'y retrouverons donc la semaine prochaine. Et en attendant, bonne semaine de rentrée à toutes et à tous.